Qu'est-ce qu'il va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale.
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, comme tous les vendredis, une conversation mondiale consacrée à la réinvention de la nature. À l'ordre du jour ce soir, peut-on réinventer la nature au XXIe siècle? Nous avions préparé cette conversation mondiale de ce soir en lien avec l'exposition sur l'invention de la nature au XIXe siècle qui devait ouvrir au musée d'Orsay à Paris. Le reconfinement a repoussé son ouverture, mais le sujet que nous avons abordé de différentes manières ces derniers mois, par exemple à propos de la présence des animaux en ville avec la philosophe Vinciane Després, ou plus récemment autour de la notion de catastrophe dans une conversation entre la philosophe Catherine Larère et l'écrivain Fabian Scheidler, ce sujet nous semblait si riche que nous avons maintenu le dialogue prévu entre la professeure de philosophie Marie-Hélène Parizeau, qui enseigne à l'Université Laval au Québec, et l'écrivain Alexis Génie, auteur récent d'un récit sur la vie du grand défenseur états-unien de la nature qu'était John Muir. Marie-Hélène Parizeau nous a d'ailleurs proposé un magnifique texte de réflexion sur la nature québécoise à partir de ses balades estivales à bicyclette le long du Saint-Laurent. Vous pouvez le trouver à la page de la Conversation mondiale sur le site de France Culture. Une belle façon de réfléchir à nos usages de la nature entre wilderness et lotissement au gazon taillé au cordeau. Bonsoir Alexis Génie.
Bonsoir.
Bonsoir Marie-Hélène Parizeau.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous avoir confié ce texte inédit donc pour notre conversation mondiale. Vous y avez pensé quand on vous l'a demandé à partir de vos balades à vélo autour de là où vous vivez pour nous montrer la variété des rapports à la nature que l'on peut entretenir dans une région comme la vôtre à Québec.
Oui, tout à fait. Les balades en vélo, cet été, on n'avait comme pas le choix parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Mmh. Alors, c'était une façon de découvrir les différents milieux qui sont autour de Québec, de ma ville. Et c'est là où on peut explorer ce que j'ai appelé la nature ordinaire, c'est-à-dire différents milieux qui passent des banlieues aux zones industrialisées, aux zones agricoles et puis aux zones forestières.
Oui, c'est-à-dire une nature qui ne serait pas d'un côté préservée sous cloche et de l'autre côté travaillée et totalement colonisée par les activités humaines, mais une nature qui présente des variétés d'approches, qui présente des sortes de gradations entre la nature dite sauvage d'un côté et la circulation des hommes dans les villes.
Oui, tout à fait, avec des zones d'hybridité. C'est ça que j'ai essayé de montrer, que s'il y a peut-être quelque chose qui a eu un impact, si l'épidémie de la Covid a eu un impact sur notre représentation de la nature, c'est peut-être justement pour les citadins et puis pour les banlieusards d'introduire plus de nature, des potagers, ça donnait à plus de jardinage. Donc, changer effectivement un peu notre regard sur la nature et puis notre prendre soin de la nature, c'est peut-être ça aussi que j'ai voulu montrer.
Qu'est-ce qu'un beau coin à Québec?
Ah, un beau coin, c'est poétique. C'est quand on dit un beau coin chez nous, ça veut dire que dans notre imaginaire collectif, c'est un coin au bord d'un lac, parce qu'il y a tellement de lacs et de rivières chez nous que voilà, c'est un bout de forêt puis un coin de lac, un horizon d'eau et de forêt.
Mmh. Alexis Génie, pour le héros de votre dernier livre, John Muir, qui est un des inventeurs de la wilderness, du préservationnisme américain en particulier, ce regard porté sur la nature, on a l'impression que le beau coin, c'était un peu partout, puisqu'il n'avait pas véritablement de beau coin à lui. Ce qui l'intéressait, c'était d'en trouver partout où il portait ses pas avec sa mule qui l'accompagnait, Brownie.
Alors, oui, tout à fait. Il s'est beaucoup promené. Il a fait que ça dans sa vie, en fait. Mais il a quand même cherché des coins qui étaient intacts. Et il était poursuivi par l'exploitation industrielle extrêmement rapide de la Californie. Mmh. Il est arrivé en Californie un peu de temps après la ruée vers l'or et il a vu s'installer la prospection, l'abattage du bois, etc. Et il était comme poursuivi par cette dégradation de la nature. Je pense que c'est ça qui l'a poussé à militer sur la fin de sa vie pour créer des parcs. Et à la fin de sa vie, justement, il allait plutôt en Alaska. Et l'Alaska, il était passionné par ce pays-là, qui était un peu à l'écart des zones de colonisation, d'exploitation, etc. Et il voulait absolument voir du pays vierge. Ça, c'est ça qui le passionnait. Il détestait les villes, fondamentalement, et voulait voir du vierge. Et eh bien, il a été un peu chassé de Californie par l'exploitation.
Et qu'est-ce qu'on apprend, justement, à se retourner, comme vous le faites aussi, Marie-Hélène Parisot, sur ce passé, justement, du regard sur la nature, sur ce passé, avec ce regard du 19e siècle, du début du premier 20e siècle, et maintenant, ce passé qui va des coureurs de bois jusqu'à nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend des fluctuations de notre regard sur la nature ?
Justement, ce qui est intéressant, c'est que le regard de John Muir, c'est plus le nôtre. On est passé par les dégradations, par l'industrialisation, par l'urbanisation, et donc on peut faire, et c'est ce que j'ai fait à travers les balades de vélo, c'est justement essayer de comprendre qu'est-ce qui nous amenait vers ça, quelles sont les logiques qui étaient à l'œuvre, comment les métiers se sont transformés, comment le regard sur la nature ou l'utilisation de la nature s'est transformée. Donc le regard historique, en tout cas pour moi, et peut-être en Amérique du Nord, où on n'a peut-être pas beaucoup de pénétration de ce regard historique, c'est une réappropriation aussi de notre passé pour mieux comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, et puis en même temps pour voir quelles sont les possibilités de transformation. Alors dans le petit texte que j'ai montré, enfin que j'ai écrit, j'ai voulu montrer que dans le cas de Brickeyville, qui était une grosse série qui débute au milieu du 19e siècle, eh bien, c'est un paradigme qui finalement s'est évanoui au milieu du 20e siècle parce que les choses ont changé. Mais en même temps, aujourd'hui, étonnamment, dans ce petit village, on a quand même une usine de désancrage de papier recyclé. Donc ici, on a une autre façon de voir les choses et puis qu'on peut re-questionner aussi, mais ça nous oblige à penser nos trajectoires techno-industrielles et le rapport à la nature qui est derrière ça.
Oui, tout comme d'ailleurs les anciennes voies de chemin de fer qui permettaient le débardage du bois et l'envoi des matériaux au plus loin, eh bien, sont devenues maintenant des pistes cyclables, Marie-Hélène Parisot, sur lesquelles vous avez pu sillonner tout l'été à vélo pendant vos balades autour de Québec. Alexis Génie, sur ce rapport justement de transformation, de regard qui change entre ce regard préservationniste de John Muir à la fin du 19e siècle et puis notre regard à nous, il n'y a guère qu'un siècle et demi d'écart, à peine.
Alors, il y a un siècle et demi d'écart, puis aussi, il y a un gros écart aussi entre l'Amérique et l'Europe. Voilà, en Europe, on est dans un espace qui est complètement, un espace rural en fait. Le wilderness n'existe pas en Europe. Moi, ce qui m'a frappé en lisant le texte de Marie Parisot, c'est que moi, j'ai suivi son chemin sur Google Maps pour savoir où elle allait. et donc, j'allais regarder les photos, tout ça. Enfin bon, c'était vraiment bien. Et je me rends compte que pas très loin d'une ville assez grande, Québec, à portée de vélo, on est dans une nature, une nature naturelle. Ouais. Bon, à Paris, c'est quelque chose qui est absolument hors de portée. Moi, j'ai passé le confinement en banlieue parisienne. Bon, c'était inaccessible, c'était trop loin. Donc, on a deux quand même. Deux types d'espaces différents entre l'espace européen et l'espace américain. Et donc, du coup, le passage de l'un à l'autre est assez différent.
Oui, Marie-Hélène Parisot, tout de même, il y a des gradations, c'est ce que vous racontez. Il y a d'abord au bord du Saint-Laurent, il peut y avoir les chantiers navals, et puis pas très loin, il y a ces lotissements dans lesquels on trouve des gazons taillés au cordeau, quasiment un gazon anglais, effectivement, avec ce qu'on imagine être des lotissements à l'américaine, d'une certaine façon, ou à l'états-unienne. Tout ça, c'est tout proche. Et puis, un peu plus loin, c'est vrai, à portée de vélo, vous pouvez vous retrouver dans une nature qu'on imagine totalement, entre guillemets, sauvage.
Oui, enfin, c'est entre la banlieue et puis la nature sauvage, il y a quand même des zones agricoles. Et ça, c'est vraiment la géographie du bassin du Saint-Laurent aussi qui explique ça. Et ces zones agricoles sont diversifiées aussi. Il y a la grande exploitation, puis après ça, il y a la petite exploitation, comme je l'ai montré là avec les Camrys. Et la nature sauvage, comment dire, elle arrive, elle est par par tâche, si ouais. je puis dire, entre les milieux. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert finalement avec le vélo, c'est qu'on pouvait être très proche des grandes forêts et en même temps être complètement au cœur de la production industrielle à des distances finalement effectivement de 20, 30 ou 40 kilomètres de Québec.
Oui, et qu'est-ce que ça nous dit de réflexion sur cette nature dans laquelle nous nous trouvons? Alors, à l'instant même, Alexis Génie nous dit que ça n'est pas la même chose dans le territoire états-unien ou américain du Nord et le territoire européen qui a été largement labouré, c'est le cas de le dire, par des générations et des générations de paysans. Qu'est-ce que ça nous dit de la possibilité d'une réflexion commune sur la nature? Vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, nous sommes de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce qu'il y a une unification de la pensée de la nature? On sait que, par exemple, on est dans une réflexion sur la désoccidentalisation de la nature. C'est par-delà nature et culture, c'est Philippe Descola, etc. Et c'est étudiants et ses élèves qui ont travaillé sur ces questions-là. Est-ce qu'on arrive justement à avoir un regard commun en ayant des natures aussi différentes, Marie-Hélène Parisot?
Je dirais oui, parce que même si l'Europe a été beaucoup plus paysagée que l'Amérique du Nord et l'Amérique en général, il reste que les phénomènes d'industrialisation ou l'utilisation des technologies est quand même quelque chose de commun. Peut-être que notre territoire est moins paysager, mais il est quand même très morcelé. Et dans ce sens-là, les questions qu'on se pose sont quand même assez proches de, justement, comment conserver la nature ou comment la réintroduire en ville, comment garder ce prendre soin de la nature qui sorte un peu de simplement la production industrielle ou l'agriculture intensive, ouais. si vous voulez.
Alexis Génie.
Alors, je pense que vraiment voir la nature par l'œil de quelqu'un d'autre qui vit pas tout à fait dans la même, c'est quelque chose qui est extraordinairement fécond. C'est-à-dire que il y a une sorte d'évidence du rapport à la nature qui est portée par notre propre civilisation, notre vie, notre façon de penser,
et notre culture, qui a été nourrie par des représentations.
C'est toujours très surprenant de voir cette autre façon de voir la nature, et c'est très très enrichissant parce que ça met en question ce que l'on croyait savoir, ce que l'on croyait être, et donc du coup ça, voilà, un peu de déstabilisation permet de voir, voilà, comme la maladie et le confinement nous a permis de voir différemment ce qui était sous nos yeux.
Oui, et évidemment, voir différemment aussi de John Muir et de son mulet résigné qui s'appelait Brony dans la Sierra Nevada, que vous racontez dans votre livre « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond », Alexis Génie. Et effectivement, avec vous dites savoir qu'il y a eu des gens comme John Muir. À un moment, vous dites ça dans votre livre, c'est-à-dire de ces préservationnistes, de ces gens qui découvraient ces séquoias géants dans la Sierra Nevada. D'ailleurs, ces séquoias qui sont désormais menacés par les incendies géants de Californie. Ça suffit à rassurer quant à l'humanité. Tenter de savoir qui il était permet de jeter un regard neuf sur la nature, dites-vous, Alexis Génie.
Oui, alors c'est pas tellement son côté préservationniste qui me fait dire ça, c'est plutôt son côté émerveillé. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a décidé d'être libre, qui, à partir de la trentaine, est parti à l'aventure. Et ce qu'il a fait, c'est se promener, s'émerveiller devant la nature et écrire sur cet émerveillement pour le transmettre. Ouais. Et ce regard lumineux sur la nature, et c'est quelque chose qui traverse le temps. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionnait dans l'étude de cet homme-là, c'était le regard qu'il portait. Et ce par quoi je pouvais comprendre cet homme-là, c'était ça. C'est-à-dire que moi, je suis jamais allé dans la Sierra Nevada, je suis jamais allé en Californie ni en Alaska, mais je comprenais son regard.
Oui, et vous le reliez, Alexis Génie, avec le regard d'un philosophe dont on parle beaucoup ces temps-ci, Baptiste Morisot,
ben,
qui dit « il faut politiser l'émerveillement », ça veut dire quoi?
Alors, il a dit ça, et il a dit une autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est une part de la crise écologique actuelle, c'est une crise de la sensibilité.
C'est-à-dire,
la nature, on ne la voit pas, on ne la voit plus, ou on la sent plus. Et c'est vrai que, bon, à force de vivre en milieu urbain, de travailler sur une multitude d'écrans, de vivre une vie relativement désincarnée, eh bien, la nature n'est plus notre sujet, n'est plus notre problème, n'est plus notre préoccupation. Et on a été tout surpris pendant le confinement de voir réapparaître des oiseaux et de voir pousser les arbres. Voilà, j'ai passé un temps fou à observer mon bambou pousser sur le balcon, chose que je n'avais jamais fait.
Et moi, entendre le merle de, qui sifflait dans ma cour, malheureusement, avec le deuxième confinement, il n'est pas revenu. Bah, je pense que ça ne va pas être tout à fait la saison. Marie-Hélène Parisot, sur ce confinement, cette séparation qui nous a obligés de ne plus aller dans la nature, en tout cas chez nous, donc en Europe, et qui, d'une certaine façon, nous a peut-être bousculé au point que nous avons regardé autrement la nature quand nous l'avons redécouverte. En ressortant.
Oui, ben je crois que c'est vrai pour tous ceux qui habitent les milieux urbains d'une façon générale, hein. Et je crois que le confinement en nous obligeant à faire nos activités professionnelles ou d'études uniquement via l'ordinateur et puis médiatisé tout le temps par un écran technologique nous a mis en face de cette logique, si vous voulez, qui toujours plus nous oblige à médiatiser nos relations par la technologie numérique en particulier.
Et c'est clair, un des grands avantages, Marie-Hélène Parisot, c'est qu'on peut vous parler en direct, alors que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est déjà pas mal. Mais si vous voulez, ce que j'ai essayé de montrer dans mon texte, c'est que c'est pas en pensant qu'on va régler le problème en utilisant de façon massive le numérique, qu'on va régler nos modes de vie en temps de pandémie. Moi, je crois que c'est la question que je pose, et on le voit en tout cas ici, c'est que ceux qui sont confinés derrière leurs écrans depuis le mois de mars, et bien surtout, je pense aux étudiants, parce que nous, au Cégep et puis à l'université, les étudiants sont derrière leurs écrans, et bien il y a un déficit de la sensibilité, du rapport à l'autre, du prendre soin. Alors, je crois que ça montre aussi les limites de la technologie. Mm-hmm. Les bons côtés, mais aussi les perspectives où il faut se poser la question de est-ce que c'est le bon sens, est-ce qu'on va dans le bon sens. Alors, ce rapport à la nature, il revient par la fenêtre, en quelque sorte. Et quand on est trop sur les écrans, ben on regarde par la fenêtre, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de regarder l'écran.
Ouais, c'est ce que vous racontez dans le texte que vous nous avez confié pour la conversation mondiale. Alexis Génie.
Oui, alors, je pense que ce choc du confinement nous a montré que nous avions besoin de la présence réelle. Nous avions besoin de la présence réelle de l'autre, de quelque chose d'incarné, de corps à côté de nous. Autrement, ça nous manque cruellement et on a du mal à penser, on a du mal à communiquer, on a du mal à être soi. Et comme on s'est rendu compte que on avait besoin également d'habiter un lieu, puisque alors personnellement pendant ce confinement, j'ai exploré mais extrêmement minutieusement la zone de banlieue d'un kilomètre de rayon qui m'était attribuée, ce qui fait 3,14 km², ça fait quand même la moitié de Gibraltar, c'est quand même déjà pas mal. Et je crois que j'ai fait toutes les rues, j'ai observé tous les jardins, j'ai vu tous les arbres, parce que en plus comme la banlieue c'est construit n'importe comment, il y a des petits bouts de chemin, de terre qui restent, etc. Je me suis nourri avidement de ça. Je me suis rendu compte du manque que c'était l'absence de contact humain et l'absence de contact naturel. Donc du coup, j'ai vraiment bu la moindre petite pousse.
Des vertus du confinement sur l'environnement, ça tombe bien parce que ça veut dire ça, l'environnement. Mmh. C'est nos environs qui, d'une certaine façon, nous intéressent dans un cadre contraint qui était celui du confinement. Vous écoutez la conversation mondiale entre Marie-Hélène Parisot, professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval de Québec, Alexis Génie, qui a été prix Goncourt 2011 pour l'art français de la guerre, mais qui est maintenant membre du prix du roman d'écologie et qui est auteur d'un livre sur John Muir, donc un des grands inventeurs des grands parcs américains. J'aurais pu devenir millionnaire et j'ai choisi d'être vagabond. Il est 19h40 sur France Culture. On se retrouve tout de suite.
France Culture.
A global conversation. The time of debate.
Il est temps de discuter justement dans notre conversation mondiale de ce qui nous permettrait d'une certaine façon de sortir de, à la fois de cette ambiguïté dans laquelle nous sommes vis-à-vis de la nature et puis peut-être aussi d'imaginer des pistes pour le futur. En tant que philosophe, Marie-Hélène Parisot, intéressée par ce mélange à la fois de technologie et d'éthique qui est le vôtre, puisque vous êtes donc présidente sortante de la Commission mondiale de l'éthique de la science et de la technologie de l'UNESCO, mais que vous vous intéressez à ces questions de nature et de culture dans nos sociétés contemporaines. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce que, en poussant un peu plus loin ce que vous disiez sur les vertus des technologies qui nous permettent de parler au-dessus de l'Atlantique aujourd'hui, mais aussi ses limites, parce qu'effectivement, elles nous éloignent les uns des autres, elles nous éloignent aussi peut-être de ce milieu naturel que certains d'entre nous voudraient pratiquer plus fréquemment.
Oui, alors, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le fond, la plupart d'entre nous ne prennent pas la mesure de notre dépendance avec la technologie, les modes de consommation, le système dans lequel on vit. Et la pandémie a permis effectivement de faire émerger ce besoin de la nature. Et là, ce que j'essaie de montrer, c'est que finalement, c'est pas une nature extraordinaire dont on a besoin, c'est une nature ordinaire.
Vous appelez une nature ordinaire alors ?
Oui, c'est-à-dire la nature telle qu'on est dans le milieu où on est. Parce que si on est dans un milieu urbain, agricole, industriel, dans la nature, dans une grande ferme, on n'a pas le même rapport à la nature parce qu'on est dans des milieux différents. Donc peut-être que c'est une familiarité avec les milieux différents. C'est-à-dire ce que Alexis Djenny a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le regard de l'autre ou le milieu dans lequel l'autre est, nous permet de mieux comprendre le milieu dans lequel on est, avec les avantages, les inconvénients, et puis ce qu'on veut faire plus tard, ce qu'on pense pour le futur, parce que la pandémie, oui, elle est là, mais elle sera pas éternelle non plus. Donc, peut-être que c'est le moment des ouvertures vers un autre regard, en pensant, oui, mais bon, moi j'habite un quartier où il y a des arbres, mais je peux habiter un quartier où j'ai face à moi tout simplement une grosse usine qui crache des fumées, où je peux habiter une ferme où on fait de l'agriculture intensive. Donc, je crois que à partir du moment où on s'éloigne, si vous voulez, de son petit milieu de vie, puis qu'on va vers les autres milieux de proximité, là on a une vision plus globale du monde dans lequel on est, et puis des trajectoires qui se sont développées autour des autres milieux qui se sont développés et qui nous permettent à ce moment-là de repenser notre relation à la nature.
Mais ça veut donc dire que vous n'êtes pas favorable, entre guillemets, à ce que certains voudraient voir venir, c'est-à-dire à un recul de l'urbanisation, à disons, une renaturalisation ou renaturisation de nos sociétés. Marie-Hélène Parisot, Francis Allais, qui est un grand explorateur qui a travaillé sur la canopée des arbres dans beaucoup d'endroits, voudrait recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest, par exemple, il dit, parce que les forêts qu'on a sont des forêts toutes exploitées. Dans une vraie forêt, les espèces sont nombreuses, les arbres sont des âges divers, et il y en a une seule en Europe qui se trouve aux confins de la Pologne et de la Biélorussie, à Białowieża, et elle est menacée. Et il dit on pourrait en recréer une dans une plaine entre Belgique, Allemagne, France, Luxembourg. Ça ferait 70 000 hectares et on laisserait pousser, on laisserait vivre cette forêt. Il n'est pas très éloigné d'ailleurs de ce que pense parfois Baptiste Morisot, dont on parlait tout à l'heure, le philosophe qui travaille sur cette question de la nature. Donc une façon de se dire, bien, faisons un pas en arrière, consacrons des espaces, pas comme ceux que découvrait John Muir au 19e siècle, mais des espaces où la nature pourrait s'épanouir sans notre présence. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Marie-Hélène Parisot ?
C'est-à-dire que, en même temps, c'est une idée intéressante. Peut-être que, du point de vue européen, ça pourrait faire sens. Mais ça veut dire, concrètement, qu'on empêche, pendant un siècle, deux siècles, la présence humaine sur un territoire. Bon. En Amérique du Nord, on a encore des restes de forêts primaires. Uh-huh. Pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-uns. La question, c'est plus comment les protéger, comment développer ces zones où les écosystèmes peuvent, les écosystèmes naturels, s'entend, peuvent se développer. Mais la question se pose un peu différemment parce que notre territoire est beaucoup plus fragmenté, mais avec des grandes zones où on a protégé par des parcs régionaux, nationaux. Proche des villes à Québec, si vous pouvez aller dans des parcs très rapidement à proximité. Donc, je dirais que la question se pose différemment, là, pour le coup, entre l'Europe et puis l'Amérique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à protéger et à faire des parcs, mais je dois avouer que la solution de dire, ben voilà, on fait un périmètre sans que personne n'y ait accès, moi, me laisse un peu perplexe dans une, de quelle représentation de la nature on parle à ce moment-là.
Alexis Génie.
Alors, moi, je serais un peu plutôt de l'avis de Halley. Bon, alors après, c'est mon héros, Halley, donc c'est normal. On peut faire différentes choses. Je crois que déjà, Baptiste Morisot, il participe à une initiative qui a lieu dans le Vercors, qui a été de racheter, par un financement participatif, racheter un morceau de forêt de montagne et dans le but de la laisser pousser comme elle veut. Voilà, donc là, c'est la fondation de ce genre de parc, de forêt primaire. Bon, on peut très bien, dans certains endroits, laisser pousser, laisser faire. Mais ça peut pas être étendu à tout le territoire. Après, il faut repenser autre chose, il faut repenser les espaces urbains. C'est vrai que dans les banlieues, que ce soit les périphéries de villages, de petites villes et la périphérie de la mégapole parisienne, l'urbanisme, c'est un peu n'importe quoi, ça s'étale infiniment. C'est vrai que là, il pourrait y avoir une pensée de la nature. Alors, il y en a déjà, il y a des tas de projets, mais peut-être que ça peut être accentué pour que il n'y ait pas un mitage du paysage, qu'il n'y ait pas cette fragmentation des milieux par une urbanisation sans contrôle.
Oui, Catherine Larrère disait, Marie-Hélène Parisot, il faut peut-être chercher à piloter la nature plutôt qu'à la fabriquer ou à la refabriquer. Elle a fait un petit livre qui est tout à fait intéressant très récemment avec Raphaël Larrère sur la question du catastrophisme, éclairé, moins éclairé, les discours catastrophistes des écologues. Vous placez entre ceux qui veulent maîtriser le vivant, qui pensent que de toute façon on va toujours aller plus loin dans le sens du progrès, y compris la question de la technologie du vivant, et ceux ou celles qui pensent que le pire est toujours sûr et qu'il va arriver une catastrophe écologique majeure et peut-être un effondrement, Marie-Hélène Parisot.
Je me situerai hors de ces catégories.
C'est ça. Je dis entre les deux. Catégories alors.
Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'éléments où il faut faire progresser la façon dont les gens sont en relation avec la nature. Et dans mon petit texte, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que il y a eu toutes sortes d'initiatives pour retrouver ce lien avec la nature, qu'on soit en banlieue, qu'on soit en région, mais il y a quelque chose où il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour mettre des limites, quant à moi, à des projets, par exemple au Québec, souvent on a des projets industriels d'une taille absolument gigantesque. Et là, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit aller nécessairement dans ce sens-là? Sinon, qu'est-ce qu'on fait comme alternative? Je crois qu'il n'y a pas un seul chemin. Et oui, moi j'irais plus dans le sens évidemment du pilotage que de la fabrication. Je ne crois pas que, à force d'artificialisation de la matière comme de la nature, l'homme va être plus heureux. Moi, je ne crois pas sincèrement à ça. Ouais. Mais la question, c'est pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec la nature? Et je crois que cette question-là, il faut la reposer dans tous les milieux et passer par le rapport ordinaire des gens. Si on veut changer notre façon d'être dans le monde et puis changer nos trajectoires de consommation, nos trajectoires industrielles, et technologique.
Alexis Génier, est-ce que ça peut passer par nos imaginaires, par exemple, c'est-à-dire les imaginaires? Vous êtes membre du prix du roman d'écologie depuis plusieurs années, vous lisez beaucoup, d'autres que vous qui écrivent sur la nature. Est-ce que ça fait partie justement de ce qui peut nous permettre d'avoir un autre regard sur la nature que nous avons autour de nous que de lire des livres, de voir des films, de voir des documentaires, etc., nous racontent des alternatives ou des visions différentes?
Oui, alors, bon, je défends un peu ma profession, qui est de créer de l'imaginaire, mais je pense que j'y crois vraiment. Et je pense que tous ces philosophes qui émergent en ce moment, Descola, Després, Morisot, etc., ils créent de la pensée pour voir autrement le vivant.
Il y a aussi Nastassia Martin, avec Croire aux fauves.
Absolument. Et là, il y a énormément de choses qui se passent, et je pense que ils sont en train de construire un imaginaire. Alors, la littérature, elle suit un peu, mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet de littérature qui m'intéresse. Et c'est vrai que ma biographie de Muir, c'est pas tellement une biographie, c'est une sorte de réflexion sur l'émerveillement en acte. Et c'est ça qui a été le fil pour moi.
Oui, c'est-à-dire que c'est comment l'émerveillement devant une nature qui vous impressionne, c'est qu'il y a géant ou une autre type de nature, que ça soit à Yosemite, à Yellowstone ou ailleurs. Comment cette nature provoque de l'action. C'est-à-dire, voilà. On se dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser abattre ces arbres, on ne peut pas laisser coloniser ces espaces, etc., etc.
Tout à fait. Et je pense que, alors, piloter la nature, je ne sais pas, mais limiter, piloter le développement humain, sûrement, le développement économique, industriel. C'est vrai que quand c'était au Brésil, Bolsonaro avait décidé d'ouvrir un certain nombre de réserves à l'exploitation en disant, ben voilà, ce sont des richesses que l'on pourrait exploiter. Pourquoi on s'en priverait? Et ça, c'est ça qui est gravissime, c'est-à-dire cette espèce d'économie prédatrice qui détruit de grandes parts de nature. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut limiter.
Et ça, vous connaissez cela comme nous, d'ailleurs, Marie-Hélène Parizeau, au Canada, l'Alberta le pétrole que l'on va chercher au cœur de la Terre, d'une certaine façon, tout cela, vous connaissez cela, et effectivement, ça fait partie de cette ambition humaine de continuer l'exploitation.
Oui, mais la question, c'est que là, la Terre, elle est finie. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question des réserves pour les générations futures, notre responsabilité pour les générations qui vont venir. Et là, hélas, moi, je crois qu'il faut effectivement questionner nos modes de consommation et puis changer l'imaginaire sur les modes de réussite sociale aussi, peut-être. C'est un peu ce que j'essaie de mettre en évidence dans mon texte, où en étant justement dans la réalité des choses, dans la proximité de la nature ou des différents milieux, à l'échelle locale, eh bien, on peut prendre conscience des incongruités ou des problèmes que l'on veut pas voir parce qu'on est en ville. J'ai pris l'exemple de l'usine d'abattage et de transformation de poulets parce que pour moi ça a été un choc quand je suis passée à côté de ça. J'étais pas bien. Je me suis dit est-ce que j'ai envie de manger du poulet quand j'ai vu ce que c'était, comment les poulets étaient entassés dans dans les camions. Ça nous force à réfléchir, à repenser certains de nos modes de consommation, puis nos modes de vie.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que ces villes américaines, nord-américaines, construites pour la voiture, par exemple, vous en parlez dans votre texte, Marie-Hélène Parizeau, ces réseaux routiers à angle droit, tels qu'ils existent dans beaucoup de villes du nord de l'Amérique, pourraient devenir des autoroutes à vélo, comme l'ancien réseau de rails que vous décrivez est devenu un réseau de pistes cyclables, par exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller aussi loin dans un monde qui a été façonné par l'automobile, construit pour l'automobile, imaginé pour l'automobile?
Moi, je crois qu'il y a déjà des linéaments de ces changements, en tout cas au Québec, que ça soit à Montréal ou même dans la ville de Québec, où justement on est en train de penser des modes de déplacement qui sont pas uniquement liés à la voiture. Moi, dans mes rêves, j'aimerais pouvoir aller à l'université en hiver en ski de fond. Ça, il faudrait que les routes ne soient pas déneigées du tout.
Et il faudrait qu'il n'y ait pas de réchauffement climatique qui fasse un jour que vous n'ayez plus de neige au Québec.
Oui, ça, mais en tout cas, vous inquiétez pas, pour l'instant, on a quand même 2 mètres de neige chaque hiver. Hein. Alors, mais ça serait mon rêve. Donc, je crois qu'il y a un imaginaire à développer dans d'autres modes de vie. Peut-être que s'il y a quelque chose que la pandémie nous a appris, c'est que justement, il y a d'autres moyens de faire les choses.
Mmh. Ah, c'est d'ailleurs ce que vous dites généralement, Alexis Génie. Marie-Hélène Parizeau dit « Seules les crises nous rappellent notre environnement ». Et c'est un peu vrai.
Tout à fait. C'est-à-dire que bon, la crise nous fait voir les choses. C'est-à-dire qu'on est dans un fonctionnement, et c'est vrai qu'on est dans un fonctionnement très désincarné, avec nos merveilleuses technologies qui nous servent tellement, on finit par... plus habiter là où on habite, plus être avec les gens avec qui on parle, etc.
Et puis ça nous coupe de l'empathie,
complètement,
ça nous coupe de la sympathie, du sensible.
Voilà, ça nous coupe du sensible. Et puis paf, un grain de sable. Et le grain de sable nous rendre compte de ça. C'est-à-dire que bon, je me souviens de ces merveilleux apéros WhatsApp qu'on faisait en début de confinement. Bon, très vite, tout le monde s'en est lassé. On n'en pouvait plus. C'était pas si drôle.
Oui, et puis il y a autre chose aussi qui est décrit par Alexis Génie dans son livre sur John Muir, Marie-Hélène Parizeau. C'est que la nature, on la sent souffrante aussi souvent, et que vous êtes tout près des endroits où elle peut souffrir. La Californie n'est pas si éloignée, même si c'est à l'autre bout de l'Amérique du Nord. Mais néanmoins, ces endroits où ça brûle, où ça flambe, on la sent mal, cette nature, parfois.
Absolument. Cet été, par exemple, il y a une tourbière pas très loin de Québec qui a flambé. Et donc, on a eu des vapeurs de fumée, mais vraiment très très importantes, même à Québec. Et pendant deux jours, on avait de la difficulté à respirer. C'était vraiment, ça vous prenait des poumons. Donc, la nature, elle est là. Et effectivement, on peut la voir souffrir. Je crois que encore une fois, quand on se promène dans les environs, ben on peut voir des sources de pollution. Une fois, j'étais sur la rivière Etchemin avec mon fils, on avait fait une balade en vélo, on s'arrête au bord de la rivière, c'était magnifique, calme, etc. On était tout seul. Et tout à coup, il y a une effluve, mais une odeur épouvantable, parce que bon, ben la raffinerie de pétrole, elle est à moins de 6 kilomètres. Donc, là, vous vous posez la question, oui, bien sûr, ce coin est préservé, mais en même temps, les effluves, elles sont là. Oui. Elles ont des effets sur les écosystèmes. Il faut pas croire qu'elles ne font juste que passer. Donc, ça vous oblige à repenser à la fois les beautés de la nature et puis en même temps, la nature qui est dévastée par nos choix technologiques ou industriels.
Et puis, une nature qui peut être dévastée aussi par ceux qui veulent voir la beauté de la nature. Vous expliquez, Alexis Génie, dans votre petit livre sur John Muir, qu'il n'imaginait sûrement pas que les parcs qu'il avait inventés, d'une certaine façon, en voulant les protéger, étaient devenus des lieux touristiques où des milliers et des milliers de touristes se promenaient. Évidemment, il n'avait pas le droit de jeter quoi que ce soit par terre, mais néanmoins, c'était devenu des lieux touristiques, effectivement, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec son idéal de préservation de la nature, de regard.
Une petite nuance quand même, c'est que quand il a voulu fonder ces parcs, pour lui, c'était pour préserver de la nature, pour que les gens viennent la voir.
Bien sûr, mais pas le tourisme de masse.
Voilà, pas de masse, mais pour les gens viennent la voir, parce qu'il lui pensait qu'il n'y a pas d'homme complet s'il n'a pas un rapport avec la nature. C'est-à-dire qu'aucune vie spirituelle n'est possible si on n'a pas de rapport avec la nature. Et il y a un petit passage assez drôle dans ses mémoires où il raconte qu'il est effrayé, étonné de voir que des touristes ne semblent pas modifiés par le spectacle de la nature.
Et oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être, on peut ne pas être sensible à ce spectacle, et on a parlé beaucoup de sensibilité avec vous, Alexis Génie. Je rappelle que vous êtes auteur de J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond chez Paulsen. Et merci à vous, Marie-Hélène Parizeau, depuis Québec, d'avoir été avec nous. Vous êtes autrice pour nous d'un texte qu'on peut retrouver sur le site de France Culture à la page La Conversation Mondiale. Merci à tous les les deux d'avoir dialogué pour cette conversation mondiale. C'était le temps du débat conversation mondiale préparé par Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Rémi Baille, Fanny Richer, Iman Gil, à la technique avec nous Somaya Dabesh, à la réalisation Alexandre Manzanares. Demain matin sur France Culture, les matins du samedi seront présentés par Chloé Cambrelin et elle recevra la chanteuse Rosemary Stanley ainsi que le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jean-Marie Burgu-Buru. Et à 18h10, vous le savez, il y a un temps du débat le samedi. L'ami Raphaël Bourgois l'animera. Il sera consacré cette semaine à la bataille des tribunaux qui s'annonce après le résultat des élections américaines. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Affaires culturelles avec Arnaud Laporte et le musicien Issam Krimi. Vous écoutez France Culture. Il est très exactement 19h.